C'est Ecoblog qui nous a conviés à ce webinaire. Ecoblog, c'est un blog éco-responsable, comme vous pouvez vous en douter, une plateforme numérique qui appelle les jeunes à l'action à travers la création de contenus libres sur les problèmes environnementaux. Ce sont en fait des contenus qui sont censés engager les décideurs ou nos dirigeants, si on veut, à adopter des solutions qui sont conformes aux défis des populations. Donc, vous pouvez envoyer une image qui parle, une vidéo, un podcast, un article sur le site en ligne, peu importe votre position. Vous allez voir nos missions sur le site. On aura certainement le temps d'y faire un tour avant la clôture du webinaire. Mais je viens de décrire la première, c'est l'alerte. Donc, les contenus que nous créons constituent des messages d'alerte, en fait, que nous rapportons ensuite aux décideurs pour promouvoir une forte participation citoyenne en ce qui concerne les enjeux environnementaux. Donc, pour résumer, nous alertons, nous rapportons et nous participons aux prises de décision à notre échelle. Donc, voilà ce que nous faisons à Ecoblog. Tout le monde peut participer, donc que ce soit vous, des personnes même qui ne sont pas lettrées, donc peuvent avoir des problèmes environnementaux, vous en parler, vous pouvez les aider à prendre des photos, des images, des vidéos, à écrire un article. On n'a pas besoin de respecter toutes les règles de l'art pour envoyer un article sur Ecoblog. C'est très facile et nous, en fait, en retour, on se charge de revoir vos articles et de les publier avant de les remonter aux décideurs. Donc, voilà cette brève présentation que j'ai faite de Ecoblog. Si vous avez des questions, chers participants, n'hésitez pas à les noter, on aura le temps pour revenir afin de vous répondre. Donc, on va démarrer avec le panel. Anne-Marie, bonjour.
Bonjour, bonjour Chimène, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin.
Un plaisir partagé. Tu veux mieux te présenter, s'il te plaît?
Ok, donc bonjour à tous. Moi, c'est Anne-Marie Golo. Je suis hydrogéologue et je suis engagée sur les questions liées aux gens, au changement climatique et également à l'eau, puisque je suis hydrogéologue. Et pour faire un peu d'historique, j'ai eu l'opportunité de faire partie de la délégation des jeunes délégués du Bénin à la COP28 l'année passée. Et donc, en plus de cela, je suis membre du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et l'assainissement, un réseau qui a pour objectif de, pour vision du moins, de promouvoir le leadership féminin dans le secteur du WASH en général. Je suis également éco-blogueuse et je pense que c'est un peu ça.
D'accord, je voudrais bien de te voir, mais si tu peux nous montrer ta belle, ton beau visage, ce serait bien. Alors, Monsieur Charaf, vous êtes là, bonjour. Bon, en attendant que Charaf ne prenne le micro, Emmanuel est là. Bonsoir, Emmanuel. Ou bonjour, bonjour du moins.
Bonjour Chimène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Emmanuel
Alors,
Kodou. Je continue?
oui, vas-y.
D'accord, moi c'est Kodou Emmanuel, je suis journaliste, reporter d'images, je suis éco-blogueur. Également, je suis monoblogueur sur RFI. Je suis un, je vais pas dire que je suis activiste en tant que tel, parce que voilà, mon métier d'abord m'oblige à communiquer sur tous les faits de la société. Et donc, voilà, je suis engagé, plus engagé sur la communication environnementale, à communiquer à travers ma compétence que j'ai en journalisme et tout. Donc, je participe plus à la sensibilisation, à la mobilisation, à l'engagement des jeunes. Encourager ces startups ou bien les entreprises, les sociétés qui œuvrent dans le domaine de l'environnement à avoir une visibilité, une communication autour de leurs événements, de leur activité. C'est ce que j'ai fait plus. Et là, je suis journaliste avec ODD TV. Ça fait déjà 2 ans déjà. Voilà. Merci beaucoup.
D'accord, merci Emmanuel. Charaf?
Bonjour.
Bonjour. Mais attendez, je n'ai pas compris. Il y a Emmanuel et Sharaf qui avaient leur vidéo allumée tout à l'heure, mais qui ont été. Voilà. Ce serait bien de vous voir quand même. Sharaf, allez.
Ah bon? Ok.
Oui.
Ok, attendez, si je finis, je vais allumer ma caméra.
Pas de problème, allez-y.
Ok, bonjour à nouveau. Je vous écoutais, hein. J'étais en train de faire quelque chose et c'est pour cela que je n'ai pas activé mon micro et j'ai laissé la parole à Emmanuel.
Ok.
Oui. Bon, moi, c'est Yao Kamoucharaf. Comme l'indique mon nom, je suis militant socio-écologiste et président de l'ONG Tonkoa. Et mon travail consiste à éduquer les enfants dès leur bas âge, que ce soit en milieu rural ou bien en milieu urbain, sensibiliser les femmes pour une bonne adaptation, renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent faire face ou bien qu'elles puissent avoir une bonne résilience face aux effets du changement climatique. Et je défends également les causes des peuples autochtones, surtout et qui ces personnes qui sont vraiment des gardiennes de l'environnement de notre planète, mais qui sont peu écoutées et qui sont peu impliquées dans la prise de décision concernant les mesures d'adaptation aux effets du changement climatique. Donc voilà, c'est ce que je fais et grâce à mes activités, j'implique souvent les femmes parce que les femmes aussi, elles constituent vraiment elles constituent un levier pour la durabilité. Sans elles, on ne peut qu'accélérer les objectifs de l'agenda 2030. Et voilà, j'essaie toujours d'être en contact avec elles, de les impliquer, d'attirer l'attention des autorités et vraiment à vraiment prendre en compte les femmes à tous les niveaux. C'est pour cela, en fait, que l'ONG Tonkoa est née. Donc, l'ONG Tonkoa pour l'autonomisation des filles et femmes vulnérables en milieu rural. Parce que sans les femmes, on ne peut jamais avancer dans cette lutte. Et avec leur savoir-faire, si on arrive vraiment à les écouter, à les donner plus de voix, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, à travers mes activités, j'ai eu à mener plusieurs activités parmi lesquelles si je me souviens, je peux citer et la campagne de salubrité et les tournées environnementales. Je peux compter depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui les enfants que j'ai pu compter, ce que j'ai, la sensibilisation que j'ai pu donner au moins, je sais que ça peut atteindre au moins 5 000, plus de 5 000 enfants et plus de au moins 100 écoles que j'ai parcourues. Donc voilà, je suis en train, je ne me suis pas arrêté. Et avec les femmes, et j'ai des coopératives de femmes aussi qui sont là, avec lesquelles on travaille pour des formations plus précises sur le mode de produit pour un environnement sain et pour aussi une consommation plus saine. Donc voilà, je peux m'arrêter là, en fait.
Super. Alors, merci beaucoup pour vos différentes présentations. On vous connaît un peu mieux maintenant, donc on va démarrer. Emmanuel, je voudrais déjà commencer par toi, vu que tu produis beaucoup de contenu éco-responsable. Et c'est quoi, en réalité, un contenu éco-responsable?
Bon, pour répondre rapidement à cette question, un contenu éco-responsable, c'est un contenu qui participe à la citoyenneté, qui sensibilise, qui éduque, qui informe sur un fait ou bien sur un sujet donné ou sur un problème ou bien qui apporte une solution en réalité. Et c'est d'ailleurs ce que EcoBlog fait. Donc comme le slogan de EcoBlog le dit, voilà, c'est alerter, dénoncer et proposer. Donc un contenu quand même doit avoir ces trois aspects là déjà, de pouvoir alerter quelqu'un sur un problème, sur une situation, sur un phénomène, et aussi le contenu éco-responsable peut aussi proposer des solutions pour pouvoir remédier à un problème. Donc, sur les questions de l'environnement, sur les questions de fait aussi de pouvoir éduquer les gens à l'éducation environnementale, parce que le changement climatique aujourd'hui constitue un grand problème, un défi pour le monde. Et donc, pour chacun de nous, en tant que citoyen du monde, forcément, on n'a pas besoin d'être un engagé ou un activiste environnement avant de pouvoir avoir ces gestes-là, de pouvoir protéger l'environnement en créant des contenus. Donc c'est nos contenus en réalité aussi pas forcément que ça respecte les déontologies de la communication, mais nous devons quand même se baser sur les règles et les lois, parce que au Bénin aujourd'hui il y a le code du numérique, il y a tout récemment, il y a de cela quelques jours, le gouvernement béninois a fait sortir des articles, des décrets pour pouvoir punir les gens sur le fait que la personne aussi, quelqu'un jette des ordures dans les rues, il va payer une amende de 25 000 ou de 1 million et même est suivi d'un emprisonnement de 6 ou 3 mois. Ouais, donc déjà, c'est aussi une manière quand même de pouvoir nous éduquer à ce que nous créons. Si nous, en tant que éco-blogueurs, nous devons quand même créer des contenus pour proposer des solutions pour alerter des gens sur les problèmes qui n'existent pas, qui existent. Et aussi, voilà un peu ce que je peux déjà dire par rapport à un contenu éco-responsable. C'est ces contenus-là qui sensibilisent, qui informent et qui éduquent. Voilà un peu ce que je peux dire.
D'accord, merci Emmanuel. Ça veut dire que quelqu'un qui crée ce genre de contenu fait de l'éco-blogging. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur EcoBlog? Pourquoi est-ce que tu as commencé à créer du contenu pour l'environnement?
Ok, merci pour cette question. Déjà, je vous prie de m'excuser parce qu'il y a assez de pluie autour de moi et je n'y peux rien, malheureusement. Et malheureusement, je ne peux pas allumer ma caméra. J'aurais aimé l'allumer, mais bon, c'est pas possible à cause du programme que j'ai aujourd'hui. Donc, par rapport au fait de comment est-ce que je suis devenue éco-blogueuse ou pourquoi je suis devenue éco-blogueuse, je dirais déjà que mon collègue Emmanuel a un peu ramassé l'essentiel. C'était en quelque sorte de faire en sorte de produire un changement dans les comportements des populations, bien de mes proches, des gens que je connais, produire un changement, informer les gens, sensibiliser les gens, leur proposer des solutions qui peuvent peut-être les inspirer. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, je me suis dit, OK, ce serait bien que j'apporte ma pierre à l'édifice, ce serait bien que je fasse quand même un effort. C'est vrai qu'au début, je me disais, bon, juste écrire, juste faire des vidéos, juste faire des photos, c'est rien du tout. Mais par la suite, j'ai remarqué que ça impacte les gens, ça produit en eux du changement, ça permet de ramener leur attention sur quelque chose, ça permet également de les pousser à aller chercher à mieux en savoir, à découvrir plus sur le sujet, sur les questions dont on parle. Et donc c'est pour ça que moi je me suis dit c'est important, c'est primordial pour moi d'être éco-blogueuse, de produire du contenu qui pousse les gens à s'améliorer, qui pousse les gens à prendre conscience de notre réalité d'aujourd'hui, de notre défi mondial aujourd'hui. Donc, c'est un peu pour ça.
D'accord. Sharaf, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'éco-bloguer et quel est en fait le rôle que vous attribuez à l'éco-blogging dans les efforts de préservation de l'environnement?
Bon, étant donné que moi, je me concentre beaucoup sur la communauté rurale, moi, ce que je peux dire, c'est que les blogs peuvent fournir des informations précieuses sur les pratiques, par exemple, agricoles durables, les techniques de conservation de l'eau, les bénéfices de la biodiversité, par exemple. Et si l'exemple que je vais prendre terre à terre, un blog peut expliquer comment introduire des cultures résilientes aux conditions climatiques ou partager des études de cas sur des projets communautaires de reforestation, des ressources qui aident les agriculteurs et les villageois à adapter leurs méthodes aux défis environnementaux actuels. Donc, ce que j'entends et par EcoBlog, c'est que Emmanuel a déjà tout dit et aussi Marie Goulon, créer des contenus, faire des activités ou bien allez-y sur le terrain chez moi pour mieux expliquer ça, allez-y sur le terrain, vivre les réalités du terrain et maintenant rester derrière son écran et réfléchir, écrire quelque chose qui peut vraiment amener les décideurs à prendre conscience, à agir et nous-mêmes inciter d'autres jeunes à s'engager, à se mobiliser pour comment dire notre patrimoine commun qui est la planète. Donc voilà, moi c'est ce que j'entends par EcoBlog, tout contenu qui peut sensibiliser, qui peut et également inciter à adapter les pratiques plus durables dans notre vie quotidienne et pour accélérer aussi les objectifs de l'agenda 2030. Donc voilà ce que moi je conçois de ce truc.
Je retiens de vos trois interventions qu'un blog doit pouvoir sensibiliser encore mieux quand on parle d'éco-blogging. Donc, un blog doit pouvoir sensibiliser, éduquer, apporter des informations. Est-ce que, Emmanuel, à ton niveau, quand tu t'engageais en tant qu'éco-blogueur, est-ce que ton objectif, c'était forcément de participer aux efforts de préservation de l'environnement ou tu voulais juste créer du contenu parce que tu es un créateur de contenu?
Oui, cette question, ça a deux réponses. D'abord, je vais dire une chose. Toute chose commence d'abord par la passion et l'ambition. Moi, ma passion que j'ai pu faire, c'est déjà la communication. Et d'abord, c'est ce que j'ai appelé le journalisme. J'ai eu ma licence, je suis actuellement master. Ouais. Donc, tout est parti de ma passion que j'ai d'abord. Et après, je me demande, bon, voilà, sur quoi je dois communiquer, parce que moi, j'aime pas faire du copier-coller, j'aime pas faire comme les autres, ce que les autres font. Je dis, bon, est-ce que je dois m'engager sur les questions politiques? Voilà, nous sommes dans une république où, voilà, un peu compliqué politiquement. En tant que journaliste, sur les questions politiques, bon, ça ne m'avantage pas, mais voilà, j'ai découvert le domaine de l'environnement, j'ai commencé par avoir quelques informations sur l'environnement, c'est en dans les années 2018 comme ça. Bon, voilà, je peux déjà commencer par faire quelque chose sur ça. Et c'est comme ça, voilà, ce que j'ai appris du journalisme, j'ai mis cela au service de l'environnement. Et c'est comme ça, j'avais créé un petit site web là sur au temple de Ulrich Sosu. Et après, j'ai commencé par communiquer. Après, j'ai rencontré EcoBlog. J'ai dit, mais waouh, ça c'est intéressant. C'est que c'est l'opportunité pour moi alors de pouvoir élargir ma communauté, de pouvoir informer des gens sur les questions de l'environnement. Et moi, ma cible, c'est pas seulement ceux qui sont dans les zones urbaines. C'est les autochtones, ces personnes qui n'ont pas accès à l'information. Parce que toute chose aujourd'hui, le numérique, c'est un pilier pour nous de pouvoir toucher les cibles. Parce que même le pauvre villageois dans sa zone Tumi-Tumi a un smartphone au moins pour pouvoir avoir accès à un petit TikTok, pour avoir accès à une petite page ou bien être libre sur Facebook. Donc, pour moi, je dis, voilà, est-ce que faut parler mieux, toucher ces personnes-là, leur apporter la bonne nouvelle, ou leur éduquer, voilà. Mais bien avant ça, je participe beaucoup, beaucoup activement à des actions climatiques, à des actions sur le terrain, parce que j'ai fait au moins trois organisations comme ça qui m'ont renforcé mes connaissances, mes compétences en matière de la communication, en matière de mobilisation, d'éducation, hein, concrètement. Donc voilà, c'était pas pour moi de pouvoir dire voilà, c'était toute une passion et voilà, quand j'ai rencontré EcoBlog, j'ai dit bon, ça c'est cartonné, hein, c'est pour aller très 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 loin. Voilà un peu comment ça s'est passé, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question.
Bien sûr, et puis je vais rester avec toi, puisque notre thème, on a dit éco-blogging, un moyen efficace pour la préservation de l'environnement, pour qu'une chose quand même arrive à contribuer à un changement positif, il faut qu'il y ait des impacts. Donc, quels sont peut-être les impacts possibles que tes contenus ont déjà eu sur les consommateurs, sur la cible que tu vises? Est-ce que tu as des exemples, des témoignages, des cas que tu peux partager avec nous?
Oui, ah là, ça, c'est la question est très bonne. Bon, d'abord, le blogging, peut effectivement être un moyen efficace pour la préservation de l'environnement parce que nous sommes à l'ère du numérique, la révolution du numérique aujourd'hui. Tout le monde est connecté. On a tellement d'opportunités pour pouvoir s'exprimer aujourd'hui librement sur les médias sociaux. Donc, mes contenus que j'ai créés souvent, pas seulement sur EcoBlog, j'écris encore également sur le blog de RFI Mondo Blog également. Depuis quelques mois déjà, j'écris. Et j'aborde aussi les questions de l'environnement et aussi que de la politique. Donc, mes contenus sont plus vers ces personnes-là parce que, non seulement que je viens d'un village, je ne vais pas cacher, et j'ai au moins des forums WhatsApp où je peux, chaque fois quand j'écris ces articles-là, quand j'écris ces contenus-là, je partage avec ceux-là pour les informer, aller lire pour comprendre. Donc, le contenu ça a aspect de sensibiliser et d'éduquer. Secondo, mobilisation et engagement. En plus de ça, fais la promotion. Par exemple, maintenant, ça, je peux décider si toi, Chimène, tu as un start-up, mais une entreprise, mais une société qui travaille pour la préservation de l'environnement. Je peux décider, voilà, d'écrire sur toi et de faire ta promotion. Donc, moi, mes contenus, franchement, sont sur trois aspects qui est la sensibilisation, l'éducation, la mobilisation, l'engagement et la promotion des pratiques durables. Voilà un peu l'aspect que de mes contenus. Et donc, tu as dit quelque chose par la suite, que ça m'échappe déjà.
J'ai demandé à ce que tu partages avec nous un témoignage ou un
document. Voilà, super. Voilà, un témoignage. En 2022 ou 2021, je ne sais pas trop, mais c'est dans les deux années-là, et j'étais déjà coordonnateur U-Report d'Ambo. Et donc, on a constaté qu'il y a un problème dans ce cas-là. C'est un témoignage qui, ça va être un peu légèrement long. Je vais aller plus dans les points précis de ce témoignage-là. Et il y avait, dans mon village, parce que moi, je vais régulièrement au village pour voir, les grands-parents, parce que j'aime l'histoire, j'aime découvrir. Donc, je suis allé au village un jour, j'ai vu que la qualité de l'eau n'est pas bonne. Et les gens souffrent de maladies. J'ai dit, mais ça, c'est dangereux, ça, c'est pas bien. Et je me suis rapproché du fait du chef du village. Il m'a dit que oui, qu'ils ont remonté ça plusieurs fois, mais rien n'a été fait. D'accord, ok. J'ai pris mon contact, j'ai appelé le CA aussi, il m'a dit même chose, il dit d'accord. J'ai pris quelques témoignages chez les gens, ces femmes-là, surtout les femmes et les enfants. C'était ma grosse cible, les femmes et les enfants. Et d'accord. Je suis allé au niveau de la mairie, j'ai écrit une demande. Et j'ai écrit cette demande-là, la demande au nom de U-Report d'Ambo. Puisque j'étais déjà coordonnateur, donc j'ai écrit la demande. On ne m'a pas répondu. J'ai fait un suivi, on ne m'a pas répondu. J'ai encore écrit une autre demande que j'ai déposée, sans réponse. J'ai dit d'accord, c'est pas grave. Puisque moi, je suis un journaliste d'investigation, je suis un investigateur, bon, je suis allé, j'ai pris mes appareils, j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris ma cam, j'ai pris mes micros, tout ce qu'il faut quand même pour pouvoir faire une petite vidéo de 3 secondes, donc de 3 minutes pour donner la parole à ces autochtones, à ces personnes qui sont dans cette difficulté depuis des années. Et ça s'est passé, je peux dire, dans mon village à Dango, dans la vallée de Lemay, la qualité de l'eau n'est pas du tout bonne. Donc j'ai pris ces personnes-là, je les ai enregistrées et j'ai publié. Ça n'a même pas fait une semaine, puis quelqu'un m'appelle depuis DGE, Direction Générale de l'Eau, voilà, pour me dire, monsieur, on a vu votre conduite, il n'y a plus bien de trucs comme ça. Et voilà, expliquez-nous. Moi, je les ai dit ça, j'ai expliqué. Et on m'a dit, mais est-ce que je me suis rapproché de la mairie? J'ai écrit, parce que j'ai encore les décharges du mois, les décharges de cette demande que j'ai écrite sans réponse là. Et ce que je dis, au moins ça a pris plus de 3-6 mois comme ça, avant ça, en tout cas dans cette période de 3-6 mois, je n'ai pas eu de retour au niveau de la mairie. Et c'est ce qui m'a incité à écrire, à faire cette petite vidéo, à montrer les souffrances de ce peuple-là. Donc, c'est un peu ça. C'est ce témoignage-là que j'ai vécu personnellement. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue de m'énerver parce que, voilà, ces gens sont dans ces zones-là. Or, on dit souvent que dans ces zones-là, c'est la vallée de Lemay, c'est la vallée la plus riche au monde. Voilà, c'est là où tout le monde va acheter. Et voilà les conditions dans lesquelles se trouve. Donc, j'ai pris ma compétence que j'ai pu quand même dénoncer ce qui n'allait pas dans mon village. Voilà un peu.
D'accord. Merci vraiment, Emmanuel, pour ces efforts, en tout cas, que vous fournissez pour l'environnement. Anne-Marie, je suppose que certainement, tu as également fait des choses, créé des contenus qui ont des impacts sur ton environnement, peut-être immédiat ou pas. Est-ce que tu veux partager une expérience avec nous pour engager ceux qui nous suivent également afin qu'on puisse vraiment savoir concrètement que ce que nous créons en tant que contenu en ligne n'est pas que du contenu, mais c'est forcément des contenus engageants.
Ok, merci beaucoup. Et déjà, je profite pour dire félicitations à mon collègue Emmanuel. C'est vraiment un éco-blogueur actif, vraiment passionné. On voit ses œuvres tout le temps. Il est vraiment actif sur sa passion. Donc, félicitations aussi, félicitations pour ce beau témoignage. Moi, je n'ai pas l'opportunité, je dirais, ou bien je n'ai pas encore l'occasion d'aller dans les... C'est vrai que ça me plaît. Je n'ai pas encore l'occasion d'aller dans les zones où il y a tel problème, pouvoir écrire du contenu sur ça. Mais ce que j'ai l'opportunité de faire, ou bien ce que je peux faire à mon niveau actuellement, c'est d'écrire du contenu sur les réseaux et informer, sensibiliser. Et je pense... L'année dernière, j'avais fait une campagne digitale au de Déclair pour tous. Au fond, j'avais fait la campagne parce que quand je faisais des publications, je créais du contenu sur les changements climatiques, les conséquences, la durabilité, tous ces thèmes techniques que j'utilisais. Il y avait énormément de jeunes comme moi qui venaient dans mon inbox me dire, mais c'est quoi les autres dont tu parles tout le temps? C'est quoi les autres dont tu parles tout le temps? Donc, je m'étais dit, OK, je vais faire une campagne pour pouvoir quand même leur mettre l'accent sur ça, leur expliquer un peu ce que ça signifie. Parce que moi, ça m'a étonné. Déjà, comment moi, j'ai commencé mon engagement pour la protection de l'environnement ou bien pour les changements climatiques, comment? Je suis dans le domaine de l'eau. J'étais en troisième année. Et c'est en troisième année, j'ai remarqué qu'il y avait un problème, je pense troisième année, deuxième année, j'avais remarqué qu'il y avait un problème concernant les changements climatiques. Et c'était très grave, c'était l'actualité, et c'était pas une question qu'on pouvait banaliser. La protection de l'environnement, c'était pas une question qu'on pouvait banaliser. Donc c'est là que je me suis dit, mais je suis dans un domaine qui est lié à la nature, qui est lié à l'environnement, et je ne suis pas au courant de ça. C'est parce que je ne me suis pas assez intéressée, c'est parce que je n'avais pas cette information-là. Je m'étais dit, OK, je me lance, ce que je vais faire, c'est quand même de partager les informations que j'essayais de gribouiller ou bien de récolter de mes recherches avec les gens, mes amis sur Facebook. C'était simplement ça l'idée déjà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure que j'écrivais de contenu, dans le temps que j'écrivais, je faisais le challenge du café environnement comme plusieurs d'entre nous ici. Et c'est là, il venait en inbox, il disait, je comprends pas tel, ainsi de suite. Surtout pour les ODD, je me suis dit, bon, je vais faire une campagne pour quand même expliquer de manière générale à tout le monde ce que je mets dedans. Et j'avais fait une campagne, la campagne, ça avait duré 18 jours, à raison d'un ODD par jour. Et c'est, au fur et à mesure que je faisais la campagne, en inbox, il y avait des gens, surtout des jeunes hommes, si je peux mettre l'accent sur ça, qui disaient, mais, c'est ça, tel ODD, c'est ça l'ODD 6 qui concerne l'eau, ok, mais moi, je faisais ça, je faisais tête dans mon village, mais je ne savais pas que ça avait de lien avec tel ODD. Je contribuais à telle manière. Il y en avait qui aidaient les gens de leur village à améliorer l'éducation des enfants dans la localité. Il y en avait qui étaient dans le domaine de l'agriculture, ainsi de suite. Donc, c'est là. Ça a permis à bon nombre de jeunes de comprendre, de s'informer déjà, de comprendre de quoi il s'agit et de mieux se diriger sur les ODD sur lesquels ils travaillent. Il y en avait qui travaillaient sur plusieurs ODD, l'ODD 5, l'ODD 6, l'ODD 1, ainsi de suite. Après cela, il y a un exemple très simple que je donne souvent, c'est, j'ai un collègue, je dirais, qui me suivait sur les réseaux, et lui suivait tout le temps ce que je disais par rapport à la protection de l'environnement, par rapport au changement climatique. Et il m'a dit un jour, ils avaient la composition de cours. Et ce prof-là, il parlait souvent des actualités. Il leur disait de suivre les actualités qui ne peuvent pas être, ils étaient en master, qui ne peuvent pas être en master dans un domaine lié à l'environnement et ne pas suivre les actualités. Et donc, pour mettre l'accent sur ça, lors des compositions, le prof a amené simplement une épreuve qui était centrée sur les changements climatiques et sur la protection de l'environnement. Et donc, ce collègue m'a dit que déjà, il était le seul à travailler dans la salle. Et pourquoi? Parce qu'il me suivait en ligne. Donc, sur l'épreuve, il s'est dit, ah, je me rappelle de telle chose que Anne-Marie mettait souvent en statut, et ainsi de suite. C'est ça qui l'a aidé, lui, à pouvoir valider. Mais ça, c'est vraiment des exemples, je pense, des exemples qui sont sur le plan d'information. Et je pense qu'il y a sûrement d'autres témoignages que je ne peux pas dire ici parce que je n'ai pas, on ne m'a pas fait le retour, je n'ai pas pris conscience de ça. Mais je suis vraiment sûre, et je suis très sûre de cela, que lorsqu'on écrit, lorsqu'on partage du contenu, lorsqu'on partage ce qu'on a appris, ce qu'on a trouvé comme information avec les autres personnes, ça change quelque chose en eux. Ça leur permet de se réveiller, de se dire, ah, il y a telle chose. Par exemple, ces derniers jours, j'ai démarré une série de publications sur des solutions que des gens ont créées. Des solutions éco-responsables que les gens ont créées pour faire face aux problèmes liés à l'eau, aux problèmes liés à l'énergie, aux problèmes liés à l'insécurité alimentaire. Et donc, c'est là, moi-même, j'ai compris que le problème lié à l'eau, on a énormément de choses autour de nous qu'on peut prendre pour faire ça. On peut détourner l'eau, on peut détourner du moins l'air pour transformer en eau potable. On peut créer des filtres à eau qui sont écologiques, ainsi de suite. Il y a énormément de solutions. Et c'est au fur et à mesure que je faisais les recherches que je trouvais ça. Et quand je publie ça, il y en a qui viennent en inbox et me disent, ah, il y a telle situation, je pourrais peut-être m'inspirer de ça pour régler tel problème dans mon domaine, pour régler tel problème dans ma localité. Peut-être, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va faire les recherches sur la manière de transformer l'air en eau potable. Peut-être qu'il va travailler sur ça. Et pourquoi pas, on aura une entreprise, une start-up au Bénin qui est aussi capable de le faire. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important de le faire. Déjà, désolé pour le bruit à l'entour, je vous avais déjà prévenu. Donc, c'est un peu ça. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je suis très ravie de ces efforts, de ces impacts-là. C'est une preuve que travailler, écrire du contenu éco-responsable n'est pas une chose vaine. Sharaf est avec nous, il l'a dit tout à l'heure, il travaille beaucoup plus avec les communautés. Sharaf, comment est-ce que vous pensez que les éco-blogueurs devraient améliorer leur activité pour mieux impacter dans les communautés, par exemple? Est-ce qu'ils doivent descendre, travailler avec les organisations défenseurs de l'environnement qui sont dans les communautés pour pouvoir mieux les impacter? Et comment est-ce que vous, en retour maintenant, vous pensez en tant que responsable d'organisation contribuer au contenu que créent les éco-blogueurs afin que les informations qu'ils relaient, qu'ils dénoncent, puissent être des informations vraies qui répondent aux besoins des communautés?
Tout ça là pour moi. Vous me recevez? Allô?
5-5, on vous reçoit.
Ok. Mais tout d'abord, ce que... Tu me reçois? Vous me recevez?
Oui.
Oui, on vous reçoit.
Bon, vous savez, avant de parler de tout ceci, c'est vrai que le temps qui nous est imparti ne cesse de couler, mais vous savez que moi, en tant que militant et président de l'organisation, je me suis pas levé un seul jour comme ça et devenu président, eh bien, et tout ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, ça a eu des procédures, ça a eu des étapes. Et aussi, normalement, je dois aussi parler, voilà, de l'impact que les attirent. Parce que, en fait, moi, la réunion, pourquoi j'ai accepté cette réunion? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vraiment l'environnement, la dégradation de l'environnement ne fait que créer des problèmes, et même pour l'autonomisation des jeunes, c'est-à-dire les jeunes comme moi, l'avenir des jeunes paraît incertain. Donc, alors, pour ce faire, c'est-à-dire, on doit montrer à ces jeunes que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les institutions qui vont penser à leur place, qui vont agir à leur place. Il faut qu'il y ait vraiment un engagement venant vraiment de nous, c'est-à-dire une synergie entre nous les jeunes pour un impact collectif afin d'amener cette jeunesse, voilà, à agir et d'accompagner les initiatives des institutions main dans la main pour créer et accélérer les objectifs de développement durable. Mais si vous m'appelez en même temps à dire, voilà comment penser et voilà, ces communautés, tout ceci, etc. Voilà, si les communautés ne sont pas engagées, maintenant, comment vous pensez que le message des éco-blogueurs ou bien tout ceci, ces communautés peuvent recevoir ou bien peuvent interagir avec tout ceci? Donc, c'est que il faut d'abord les motiver, il faut d'abord les amener à comprendre et il faut d'abord les amener à rentrer dans le bain afin de trouver une solution. Donc, je ne sais pas si je dois commencer par là ou bien je dois commencer par ce que Emmanuel et Marie Golo ont commencé, ou bien comment je fais? Comment?
Non, donc, si j'ai bien compris, oui, vous avez raison, vous dites qu'il faut déjà donner l'information aux communautés, leur apprendre ce que c'est que la préservation de l'environnement et tout. Mais est-ce que vous ne pensez pas que un peuple qui vit une situation de dégradation de l'environnement, peu importe dans le domaine, que ce soit de l'eau, de la terre, la pollution de l'environnement et tout ce qui va avec, a conscience au moins de ça, même si ce peuple-là ne sait pas peut-être qu'il y a des blocs qui existent, qu'il y a des jeunes qui en parlent. Ils savent quand même qu'il y a des problèmes environnementaux. Est-ce que les éco-blogueurs peuvent descendre sur les terrains directement, aller vers les peuples pour pouvoir recueillir leurs problèmes quotidiens en ce qui concerne l'environnement, ou bien vous pensez que c'est mieux pour les éco-blogueurs de descendre, d'aller vers les organisations qui sont déjà en contact avec ces communautés-là pour pouvoir avoir des informations fiables qu'ils vont en retour mettre sur les blogs?
Bon, en fait, et là, il y a deux cas. Il faut d'abord vraiment, il faut s'aventurer parfois, parce que moi, pour commencer, je n'ai pas suivi d'abord une organisation ou bien quoi que ce soit avant de me créer ma propre image. Donc là, on peut dire que ça dépend des éco-blogueurs et ça dépend des compétences, c'est-à-dire du dynamisme de tout un chacun. Par exemple, dans une communauté, si vraiment on n'est pas engagé, on n'est pas motivé et on n'a pas la passion du truc, c'est qu'on peut être éco-blogueur dans la bouche, c'est-à-dire on peut être éco-blogueur dans les réseaux sociaux sans toucher les réalités et du terrain. Donc, pour ce fait, je peux mettre un accent en disant que les éco-blogueurs, d'abord, avant de devenir éco-blogueur, c'est que on a déjà parcouru voilà des expériences et savoir écrire, savoir comment agencer les choses, donc tout ceci. Donc de là maintenant, on peut se renseigner par exemple sur des milieux ruraux, des communautés. Il y a parfois Anne-Marie Golo qui me demande et souvent des communautés sur lesquelles on peut mener telle activité, tant. Donc si on a de l'expérience déjà, vu qu'on connaît déjà et le problème et comment dire, de ces communautés, on est parti, on a vu, ou bien sur les réseaux sociaux, pour confirmer ce que disent les réseaux sociaux, on peut descendre sur le terrain. Après avoir descendu sur le terrain, on ne peut quand même pas aller directement vers ces communautés sans passer par des institutions locales, c'est-à-dire se renseigner ce qui se fait sur cette communauté et voir quelles sont ces initiatives qui sont là, quelles sont ces organisations qui sont là, et en fait de ça, demander voilà une audience avec eux ensemble pour qu'il y ait une synergie vraiment qui peut vraiment amener les communautés, parce qu'il faut les mettre d'abord en confiance et il faut d'abord vraiment leur montrer l'importance de ce que vous voulez faire, leur intérêt dans ce que nous voulons faire, pour pouvoir amener les décideurs à vraiment, les décideurs à agir, en fait, Donc, nous sommes là en tant que frères, mettre la lumière sur les problèmes auxquels ils font face. Donc, je crois qu'avec cette procédure, voilà. Et par exemple, nous maintenant, on était une petite anecdote. À Tchatchou, c'est un arrondissement de Tchao. Donc, on est parti, on a écrit un TDR sur les bonnes pratiques de l'hygiène et d'assainissement dans un contexte du changement climatique pour promouvoir l'égalité des sexes et accélérer les objectifs de l'agenda 2030. On a écrit le TDR visant à voir une condition des bras dans lesquelles les populations vivent, c'est-à-dire un cadre de vie malsain, et voir aussi une source d'eau à laquelle elles s'approvisionnent, peut-être insalubre, et voilà, pas potable en fait. Donc c'est dans ce sens, pour apporter une solution, on a écrit, et comment dire, ce TDR. Maintenant, une fois allé sur le terrain, le CA nous a guidés sur un autre terrain dont on ne connaissait même pas, c'est-à-dire la réalité. On a seulement expliqué ce qu'on voulait faire. Donc, il est du milieu, il nous a transféré dans sa localité. On est parti. Ce qu'on croyait voir, c'était pas ça. On a vu un cadre de vie au moins acceptable à 50%. L'eau à laquelle elle s'approvisionne, c'est que c'est déjà bien traité tout ceci. Maintenant, ce qu'on a fait, on s'est assis avec ces communautés, c'est-à-dire en langue locale, les mettre en confiance, parler et familiariser. C'est de là maintenant, c'est avec eux maintenant, on a dit voilà, quel problème auquel elles font face actuellement. Donc c'est là maintenant, ils ont fait sortir un autre problème pour dire que voilà, on a en saison pluvieuse, c'est-à-dire on n'arrive pas à, c'est-à-dire les femmes n'aiment pas aller s'approvisionner au niveau de l'eau potable. Elles préfèrent aller dans les marigots, s'approvisionner, faire la vaisselle, faire des toilettes intimes, tout ceci, etc. Donc voilà, c'est sur cette base maintenant, on s'est dit, voilà, on va chercher à comprendre les faits sociaux et comment dire, culturels, économiques, sur tous les plans pour savoir qu'est-ce qui les empêche à travers un questionnaire sur Kobo Collect. Et là, maintenant, retourner pour une sensibilisation, écrire quelque chose pour amener les décideurs et les autorités à prendre garde pour pouvoir le faire. Donc, je crois que dans cette approche, on peut parvenir vraiment à une collaboration, c'est-à-dire en langue locale. Et même si les populations, vous avez dit que même si elles voient les difficultés, elles ne savent pas si c'est le changement climatique ou bien comment. Donc, c'est là qu'interviennent les médias, les éco-blogueurs à travers une communauté où les informations vont se passer en langue locale. Et par exemple, Anne-Marie qui parlait de ODD, qu'est-ce que les gens disent? Et en ville, les gens peuvent comprendre l'ODD, mais il faut aller vers la culture et le local, c'est-à-dire la langue locale, permettre à toutes les communautés qui ne comprennent pas cette langue officielle de comprendre au moins, voilà, ce qui se fait. Et de là, quand vous allez aller sur le terrain, elles pourront vous accueillir, comprendre et trouver une solution pour un monde vivable. Moi, c'est ce que je peux dire concrètement.
Donc, pour vous résumer, il faut que les éco-blogueurs puissent promouvoir une démarche d'inclusion avec les communautés, les inclure, les intégrer en parlant peut-être les mêmes langues que ces populations-là, en recueillant leurs avis dans leur langue et en faisant des activités en fait avec les populations. Très bien. Alors, avant de continuer, je voulais rappeler que nous avons un challenge aujourd'hui, c'est que à la fin de ce webinaire, au lieu de s'arrêter là, puisque toute la journée on parlera de blog, c'est la journée internationale du blog, que nous puissions écrire un contenu aujourd'hui. Ce serait l'idéal en fait, serait que ce soit un contenu éco-responsable, pardon pour ma voix. Donc quelque chose qui a rapport avec la préservation de l'environnement, ça peut être sur ce webinaire, ça peut être une autre chose, un autre problème que vous relevez. Mais si ce n'est pas obligé, vous pouvez toujours écrire un autre contenu d'un autre type. Mais que ce soit un contenu, une image, une vidéo, un podcast ou un article que vous publiez aujourd'hui, ce serait génial. Et sur EcoBlog, ce serait encore plus génial. Alors, hier, j'ai fait un petit exercice en tant que journaliste. J'ai questionné des blogueurs généralistes sur ce qu'ils font, sur les défis qu'ils rencontrent au quotidien dans leur activité en tant que blogueur. Et j'ai entendu beaucoup de choses, même sur les avancées du blogging au Bénin. Alors, Emmanuel, est-ce que en tant qu'éco-blogueur, tu rencontres des défis? Emmanuel, tu es avec nous. Est-ce que tu as des difficultés dans la collecte peut-être de tes informations ou bien dans le processus de traitement? Parce que tu es journaliste, donc certainement tu ne publies pas comme tout, comme tous les autres. Comment est-ce que tu arrives à avoir des contenus vraiment qui te plaisent toi-même avant que tu ne les diffuses? Quelles sont les difficultés que tu rencontres?
Merci. Tout d'abord, ça peut aller?
Oui.
Oui, on te reçoit. Okay.
Super. Les défis sont il y a beaucoup de défis à relever et je traverse beaucoup de choses pour que au moins j'ai un contenu sur Ecoblog. Je traverse beaucoup de choses. Par exemple, l'accès à l'information. L'accès à l'information. Je pense qu'en temps, il y a un problème à Port-Nouveau. Je ne sais pas, ceux qui vont à Port-Nouveau vont déjà constater ce problème-là. Quand on traverse le pont, le côte du lac de Port-Nouveau, ils pensent qu'il y a un projet qu'ils appellent leur projet Porto-Ville Verte. Et ce projet constitue, voilà, à déguerpir tous ces autochtones, tous ces paysans, tofim, qui sont là, et à déguerpir tout cela de là, et à faire de là la ville verte de Port-Nouveau. Et quand j'ai reçu l'information sur le web, d'abord j'ai demandé moi-même aussi, voilà, d'aller enquêter un peu, et d'avoir la bonne information pour pouvoir écrire un contenu sur Ecoblog. Donc, dans l'enquête, j'avais prévu, voilà, prendre le maire, j'avais prévu prendre les autochtones, et aussi prendre le chef d'arrondissement ou bon le chef quartier. Maintenant, arrivé au niveau de la mairie, j'ai lancé des audiences, ce qui n'a pas été fait. On m'a pas programmé pour rencontrer le maire. Je suis allé au niveau du CIA aussi. Lui a dit non, que lui ne peut pas se prononcer dans cette affaire parce que les autochtones ne veulent pas quitter et que les autochtones sont en train de faire des gris-gris pour pouvoir, tuer ou bien que lui parle en fait de sa histoire de sorcellerie parce que tout ça. Donc, j'ai rencontré ce pouvoir-là pour pouvoir écrire ce compte. Et depuis que j'ai eu aussi la chance quand même de pouvoir prendre quelques informations chez les autochtones, chez ces personnes qui sont dans ces milieux-là. Comme on dit, que ne peut pas quitter là parce que c'est leur côté, ils ont grandi là, ils ont des enfants là, ils ont fait tout là, ils ont tout fait là, ne peut pas quitter là. Donc, il y a problème d'information. Parce que nos autorités, nos supérieurs, moi, j'aime quand même aller plus loin, pousser mes curiosités dans mes contenus, quand même permettre à mes lecteurs, à mes communautés de pouvoir avoir une source d'information fiable parce que vous savez, il faut créer des contenus, mais il faut aller vers les sources pour éviter les fausses informations, pour éviter les fake news, tout ça. Donc, on doit créer un contenu original, un contenu qui ne met pas en sensibilité les communautés. Donc, moi, on a ce souci d'information là, on a ce souci d'information où les gens, certaines personnes ne veulent pas. C'est surtout au niveau des autorités en fait, parce que eux tous ils ont peur, parce que nous avons le code numérique qui est là, qui nous met gens en danger. D'abord, si tu crées un contenu, mais tu écris un truc qui ne capte pas, voilà, l'article du code numérique 55 va te punir. Donc, les gens, certaines personnes ont peur de parler. Mais néanmoins, d'autres personnes sont libres de nous donner les informations. Quoi. Donc, il y a ce problème d'information là que nous avons. Maintenant, autre chose aussi, il y a, un autre défi que moi, bon, j'essaie de relever, qui est les images. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir photo crédit de ces images-là que tu vas mettre dans ton contenu, dans ton article, dans ta vidéo. Donc aussi, il faut traiter l'information. Si c'est une vidéo que la personne crée sur son blog, il faudrait que quand on soit sûr que l'information que cette personne est en train de donner soit fiable, en fait. Donc, en tant que moi, j'essaie de traiter l'information de la personne. Et j'essaie de discuter avec lui pour dire, telle information que vous avez donnée, moi, j'ai trouvé ça. Et ensemble, on essaie d'améliorer pour avoir un contenu qui ne freine pas la loi, en fait. Donc, il y a ces petits paramètres-là que moi, ces problèmes que moi, je rencontre et que j'essaie de les régler toujours pour pouvoir protéger mon image également, mais aussi de ceux avec qui j'ai collaboré pour pouvoir créer mes contenus. Donc, il y a ces petits défauts-là. Mais il y a aussi point de connexion, parce qu'au Bénin, la connexion n'est pas encore ce qu'on veut, tout, mais on essaie de faire avec. Voilà un peu ce que je peux dire.
D'accord, merci Emmanuel. Anne-Marie, certainement tu vas revenir également sur les difficultés que tu rencontres, mais je voudrais que tu puisses t'accentuer sur les avancées. Est-ce que tu penses que l'éco-blogging connaît des avancées au Bénin? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent? Est-ce que la thématique environnementale est une thématique qui plaît aux créateurs de contenu au Bénin?
Bon, je pense que cette question est un peu complexe pour moi, et parce que de base, je ne suis pas une blogueuse officielle du Bénin, tu vois. Je pense que quand on va prendre un blogueur du Bénin, un vrai blogueur, je dis pas que je suis une fausse blogueuse, mais quand on va prendre un blogueur, quelqu'un qui est vraiment à temps plein blogueur au Bénin, et lui poser cette question, il aura un avis plus juste par rapport à ce que moi je vais dire. Donc moi je pense qu'il y a des gens comme Emmanuel dessus. Je pense qu'il y a quelques avancées. Il y a quelques avancées. Et si je dois parler d'avancées qu'il n'y a vraiment pas, c'est le contenu vidéo éco-responsable. Il n'y en a pas encore assez au Bénin. Et avec certains, on est en train de réfléchir à voir comment faire pour qu'il y ait assez de contenu éco-responsable en format vidéo, en format photo. Il y a énormément d'efforts qui sont fournis. On connaît beaucoup de jeunes qui font beaucoup d'efforts dans le sens de format écrit, dans le sens de format photo. Mais le format vidéo et le format audio, pour moi, il n'y a pas assez d'avancée de contenu éco-responsable. Peut-être que je n'en connais pas, parce que bon, c'est vrai que je suis dans les recherches, mais je n'en connais pas. Si quelqu'un en connaît, peut-être il peut écrire ça dans le chat. On ira checker, moi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je passe sur les difficultés, c'est ça, Simon?
Oui, oui, bien sûr, si tu en connais.
Désolée. Ok, bon, pour les difficultés, Emmanuel a déjà tout dit, tout. Et lui, il est aussi fact-checker ou bien, en tout cas, les gens qui sensibilisent à la vérification des informations avant de les publier. Je ne sais pas vraiment, je n'ai plus gardé l'intitulé, du moins, du nom. Donc,
je pense que tu l'as dit, moi, c'est fact-checker.
Merci, fact-checker. C'est ça, hein?
Oui.
D'accord. Donc, pour moi, c'est trouver des informations de qualité. Il avait déjà mentionné. Je pense qu'il a mentionné toutes les difficultés. Mais moi, je pense qu'il faut revenir sur ça. Avoir accès à l'information et aussi trouver des informations de qualité. Et après ça, trouver les bonnes stratégies ou bien les bonnes techniques pour faire passer le message, pour qu'il y ait du changement. Faut pas que ça reste platonique. Comment faire en sorte que lorsqu'on écrit, ça touche le public. Lorsqu'on écrit, ça transforme les comportements du public. Donc, il y a un peu ce problème-là que jusque-là, moi, je n'ai pas encore réglé. Et pour moi, c'est une difficulté sur laquelle on pourra travailler par la suite. C'est les deux difficultés que je vais rappeler en plus de tout ce que Emmanuel a dit. Merci.
D'accord, merci beaucoup. Nous avons 5 minutes avant de lancer les questions que je prie déjà les participants de commencer par envoyer dans le chat. Ça nous faciliterait beaucoup la tâche. Avant de revenir à Sharaf pour peut-être ma dernière question à son endroit, je voudrais, Emmanuel, puisque Anne-Marie a dit que tu es la personne la mieux habilitée pour nous parler des avancées de l'éco-blogging au Bénin, est-ce que tu veux bien te prêter à l'exercice et nous dire si vraiment l'éco-blogging connaît des avancées au Bénin?
Bon, éco-blogging au Bénin, je veux dire tout simplement, Anne-Marie, merci quand même de tes réponses déjà. Éco-blogging au Bénin, c'est en extension. c'est une expansion où que il n'y a pas de, de plateforme autre que Ecoblog. Et moi, Ecoblog, franchement, je félicite cette initiative de Formulaio qui a quand même compris l'enjeu. Il n'y a pas de plateforme où voilà les citoyens peuvent aller prendre des informations, savoir comment avoir des informations sur le changement climatique, comment se comporter en tant que citoyen. Par exemple, le Bénin vient de voter des lois pour dire, voilà, si un citoyen jette des sachets dans la rue, si un citoyen fait ci, fait ça, on va avoir puni cette personne-là. Si vous punissez la personne et que la personne n'a pas eu l'information, ah, sur quel site web je peux aller et avoir la bonne information? Sur quelle application je peux y aller et avoir la bonne information? Il n'y en a pas, moi. Tout, voilà, le Bénin, franchement, c'est un pays qui est champion pour voter les lois, mais l'application est difficile. L'application est difficile et ce que Ecoblog fait au Bénin, franchement, de ceux qui n'en savent pas, visitez Ecoblog et cherchez à comprendre, en fait. C'est une expansion, c'est pas que, voilà, un truc qui, c'est une expansion au Bénin parce qu'il y a déjà quand même Ecoblog qui est là. Mais là, à part Ecoblog, il n'y a pas d'autres plateformes. Où voilà, les citoyens sont libres d'aller voir c'est quand j'achète un sachet là, comment je peux entretenir les déchets chez moi, comment bon, on voit les actions du gouvernement, les SDS et autres, ce qu'ils font, mais le numérique aujourd'hui, voilà. Donc Ecoblog au Bénin n'est pas encore trop avancé. Je peux dire d'abord pour féliciter l'initiative de Ecoblog. Cette initiative c'est quand même une opportunité qui devait être mise au sommet en matière de changement climatique, parce que l'environnement c'est tout ce qui nous reste après tout ce qu'on va on va accueillir dans ce monde. Donc, Ecoblogging au Bénin n'est pas, je pense pas qu'il y a encore d'autres papas en Bénin. Je pense que, l'année dernière, je sais pas dans quelle année, quand j'étais en Tunisie, il y a une plateforme là où les citoyens vont pour pouvoir déposer leurs déchets en ligne. Et il y a aussi d'autres plateformes où les citoyens peuvent aller avoir les informations sur le changement climatique, sur l'environnement, comment. Donc, il n'y a pas encore un truc où les citoyens peuvent avoir accès. Ce que nous on fait avec Ecoblog, c'est juste qu'on propose des solutions, on alerte et puis on dénonce. Voilà, peut-être on pourra aussi élargir la plateforme pour que moi permettre aux citoyens d'aller avoir quelques informations. Parce que moi, l'angle de traitement de mes articles sont pas forcément l'angle où on va informer un large public avoir assez d'informations. Donc il faudra encore recadrer, peut-être créer encore un truc plus avancé sur Ecoblog pour permettre à tout le monde d'avoir l'accès à l'information. Parce que l'accès à l'information, c'est très capital. Celui qui n'a pas l'information n'a pas le pouvoir. Et aujourd'hui, l'accès à l'information sur le web, c'est sensible parce que il y a d'abord l'avancée de la technologie, nous avons les fake news, comme Anne-Marie a pu le dire, le fact-checking. Nous avons aussi en tout cas, il y a beaucoup de choses encore quand même pour quand même permettre à Ecoblog au Bénin de s'avancer. Donc, puisque c'est du web, c'est pas encore très avancé. Les gens ne trouvent pas encore l'importance de pouvoir. Beaucoup de personnes ne font plus confiance au web parce que voilà, c'est libre, bien. Mais il y a des sources, il y a des plateformes qui sont dans du sérieux et qui font de bons trucs. Donc Ecoblogging au Bénin, c'est en expansion, déjà parce que c'est un pas, cette initiative qui a déjà été faite, Ecoblog est là. Je pense que Fumilayo, s'il est avec nous, il pourra aussi en parler sur cette question-là, parce que franchement, Ecoblogging au Bénin n'est pas encore ce qu'on veut. Sinon, il y a d'autres plateformes, hein, qui n'abordent pas les questions de l'environnement. Mais il y a d'autres plateformes qui sont en expansion au Bénin, voilà. Mais de temps plus que le gouvernement est en train de mettre en place des lois sur l'environnement, là, faudrait qu'il y ait des plateformes éco-responsables pour pouvoir mieux outiller la population, pour pouvoir informer la population, pour pouvoir éduquer et faire la promotion, même aussi créer des communautés, pour permettre de faire la promotion de l'environnement. Tout récemment, le ministère de Cadre de Vie a lancé un concours des jeunes pour les délégués à la COP29. Bien vers les jeunes vont à la COP29. Beaucoup de jeunes d'abord vont, ou même beaucoup d'organisations vont, parce que c'est pas au Bénin, c'est à l'extérieur, c'est en Europe. Ils vont, mais ils vont pas dans l'optique de pouvoir. D'abord, ils ne comprennent pas la chose, mais ils vont, ils reviennent. Si on va estimer le pourcentage, bon, peut-être 50% comprennent, d'autres ne comprennent pas parce que c'est l'opportunité qu'ils trouvent de quitter le pays. Ouais, donc du coup, chez eux, si tu es bien informé chez toi, quand tu sors du pays, tu as la possibilité de défendre, tu as la possibilité de pouvoir apporter la bonne information, de pouvoir trouver des opportunités aussi pour toi-même, pourquoi pas? Ouais, donc moi j'ai félicité franchement l'initiative EcoBlog et quand je l'ai vu ça, j'ai pas hésité franchement à m'y donner parce que l'objectif c'est pas seulement pour EcoBlog, c'est pour tout le monde entier en réalité. Et je peux même faire un petit témoignage par là, c'est parce que j'écrivais des articles sur EcoBlog que aujourd'hui j'ai été sélectionné parmi les 2000 candidatures sur RFI Mondo Blog cette année et pour en faire des Mondo Blogueurs de RFI. Voilà, un peu. Donc du coup, c'est EcoBlog Mino Bénin, c'est une expansion.
Merci beaucoup Emmanuel, merci pour ce témoignage final qui certainement est motivateur. Alors, Sharaf a levé la main, mais j'allais déjà lui donner la parole. Alors, avant peut-être que Sharaf, vous avez quelque chose à dire de particulier, mais ma dernière question avant de lancer, avant qu'on nous réponde aux questions des participants, était de vous demander en réalité comment est-ce que vous pensez qu'il faut promouvoir un blog éco-responsable dans le but d'une couverture nationale, que ce soit dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Comment est-ce qu'on peut promouvoir un blog éco-responsable pour atteindre toutes les cibles?
Bon, à cette question, je peux dire que ce n'est pas facile, mais c'est encore facile, c'est d'adapter les réalités, c'est-à-dire à toutes les communautés, c'est-à-dire parce que les réalités ne sont pas les mêmes en fait. Donc, et si on arrive à comprendre ceci, et si on arrive vraiment à aller en contact, à impliquer, c'est-à-dire et les chefs élus locaux dans les différentes communautés et les outillers, c'est-à-dire en langue locale, faciliter, les impliquer, les confier des responsabilités. Je crois que c'est ces mêmes élus locaux, c'est ces mêmes chefs traditionnels qui ont des enfants aujourd'hui, qui deviennent des autorités, qui sont dans des postes de responsabilité, etc. Mais je crois que si eux, vraiment, ils arrivent à en parler à la radio et la population peut vraiment aussi facilement suivre la danse et aussi les éco-blogueurs auront la facilité d'avoir les informations, d'être en contact avec eux et d'être plus à l'aise et aller sur les réseaux sociaux maintenant et mettre, comment dirais-je, et ces informations aujourd'hui, pourquoi pas, on parle de parifé, on parle de comment on appelle ces initiatives là, même là où on parle des langues traditionnelles, les projets, par exemple, bon, chez nous il y a un projet qu'on appelle parifé, donc on enseigne la langue locale, c'est-à-dire aux enfants et aux personnes âgées, alphabétisation, les projets d'alphabétisation, pourquoi ne pas inclure ces cours dedans et leur parler, voilà, et comme on parle la langue locale, insérer ces gens de programme dedans, les parler, et là, ils pourront comprendre, et de là même, on peut même les amener comme des exercices à créer vraiment, c'est-à-dire des groupements et de sensibilisation, d'activité, et pourquoi même et leur confier un responsable, c'est-à-dire qui s'y connaît, en blocking bien, etc., dans le domaine du média et les impliquer ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu Google Transaction que un jeune homme avec son équipe a créé. Et là, c'est-à-dire, il y a des applications comme ça, on les apprend comment y faire. Je crois que ensemble, en collaboration avec ces initiatives, je crois que l'éco-blogging pourra vraiment s'y mettre à fond et créer plus de contenu de sensibilisation et voilà, de prise de conscience pour un avenir. Mais bon, c'est ce que je peux penser tout simplement.
D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les participants qui sont restés jusque là. Anne-Marie, Emmanuel, Sharaf, merci. Nous allons passer à la réponse des questions qui sont dans le chat. La première question que je lis est celle de Mariam. Elle demande comment collaborez-vous
avec d'autres acteurs de l'environnement. Emmanuel, tu veux bien répondre à cette question?
Comment collaborer avec d'autres acteurs de l'environnement? Acteurs de l'environnement, nous sommes tous acteurs de l'environnement. Oui, nous sommes tous acteurs de l'environnement parce que la Terre, c'est tout ce qui nous reste, comme je l'ai dit. Et la Terre, c'est le seul endroit où il y a de la bière. Donc, si à chaque fois nous avons l'opportunité de participer à des ateliers comme ça, des assises comme ça, et que il y a un acteur, quelqu'un qui est plus gros cadré dans le domaine de l'environnement. Par exemple, maintenant, en réalité, si vous avez une organisation, vous devez quand même chercher à être en partenariat avec le ministère de cadre de vie, la DGE, tout ce qui est structure d'État qui œuvre dans le domaine de l'environnement. Ces partenariats vous permettent quand même de rester en contact avec eux. Et chaque fois quand vous avez des activités, vous avez des actions. Par exemple, maintenant, je suis en train de créer le contenu sur le blog de RFI, hein, mon blog sur le vaccin Impost. Mais facilement, j'ai pu quand même me mettre en contact avec le ministère de la Santé, avec l'OMS et l'UNICEF, et ils m'ont donné des informations que, voilà, je vais essayer de mettre ça dans mon article. Donc, il faut trouver des issues, des opportunités pour pouvoir collaborer avec ces personnes-là, pour avoir l'information. Donc, si vous n'êtes pas en partenariat, si vous êtes en organisation, il faut aller en partenariat pour avoir plus d'informations. Et si vous êtes une personne, voilà, individuelle comme nous autres, vous êtes libre d'aller les voir, ils ne vont pas refuser de vous donner l'information. S'ils refusent, voilà, malheureusement, dans mon village où ils ont, le maire a refusé de donner l'information, mais quand j'ai tranché autrement, il a compris. Voilà, et depuis ce jour-là, on est devenus des amis, et chaque fois, il y a quelque chose, il me dit, ah, Emmanuel, viens, voilà, je vais bien, toi, on fait ça, on fait ça, et puis, il m'implique, et c'est comme ça. Prochainement, quand je vais vouloir le voir pour apprendre l'information, il ne va pas refuser. Et donc, voilà un peu. Donc, moi, j'ai apporté ce changement, et je pense que c'est pas moi seul, d'autres jeunes, depuis que j'ai créé ce truc-là en 2022, c'est pas trop. Ben, les gens n'ont plus de soucis au niveau de la mairie, ou quoi, au niveau de l'arrondissement, dans les gens, franchement, la mairie a vite compris que, voilà, il faut être auprès de ces populations pour pouvoir apporter la bonne information. Donc, du coup, en plus, chaque opportunité, chaque rencontre est une opportunité pour chacun de nous, hein. Donc, ici même aussi, je sens qu'il y a des acteurs ici. Qui peut toutefois apporter le pied à l'édifice pour vos activités. Donc, tous, nous sommes tous des acteurs de l'environnement. Et c'est tout. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. C'est parce que j'ai répondu à la question quand même.
Bien sûr. Très bien. Alors, j'espère quand même que Mariam a eu sa réponse. Il y a Célestin et Bonaventure qui ont posé des questions qui se ressemblent. Donc, c'est une question. Comment avoir un blog légal en accord avec les lois en vigueur au Bénin et y créer du contenu? Emmanuel, je reste avec toi.
Voilà, créer un blog légal toujours en respectant le code numérique, c'est d'abord, il faut aller lire d'abord le code numérique, ça fait une chose. Secondo, il faut avoir une niche, il faut avoir un branding, il faut savoir que ce que vous voulez créer, voilà les défis à relever, voilà les problèmes, voilà les solutions, voilà. Il faut avoir une niche, un branding, il faut bien faire votre branding. Et pour avoir un blog légal, c'est pas un truc de magie. Si vous décidez de créer votre blog, il faut être plus précis. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas créer un blog qui aborde plusieurs questions. C'est pas bien. Mais quand vous créez un blog qui est précis, par exemple, comme éco-blog, qui est précisément ça, rien que de l'environnement, voilà, on sait que quand on va sur votre blog, toutes les questions de l'environnement, vous avez le temps de pouvoir les décortiquer complètement sur votre blog. Et aussi, quand vous lisez le code du numérique, et vous comprenez le code, vous comprenez les articles, les décrets qui ont été pris, je ne pense pas que vous allez essayer de laisser quelqu'un, si même votre blog, quelqu'un d'autre pourra agir sur votre blog. Ayez quand même des règlements intérieurs ou bien des lois, vous mettre en place des stratégies de politique de confidentialité pour ne pas freiner la loi, pour que ceux qui collaborent avec vous sur votre blog ne vous amènent pas à tomber dans les pièges de la loi. Donc, puisque nous sommes dans un État qui est champion dans le vote des lois, dans l'établissement des articles, des décrets, pouvoir toujours se centrer. Et je pense que cette stratégie que le gouvernement bénin utilise même en créant des lois, des articles, c'est mieux. Ça nous permet aussi de ne pas créer des contenus nuisants, de ne pas créer des contenus qui vont heurter la sensibilité ou bien qui vont freiner le développement de notre pays. Et ça même ça permet aussi de pouvoir éviter beaucoup de fausses informations, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, les Béninois aujourd'hui ont peur de pouvoir s'exprimer sur le web, de pouvoir dire n'importe quoi. Et vous savez ce qui s'est passé avec notre confrère, mon frère, lui a dit, on vit ce qui se passe. Lui, il écrit des chroniques. Voilà. Et comment ça s'est passé? Donc, du coup, allez prendre le code de mutualiser et ne créez pas de contenu pour pouvoir, lui, j'ai dit, ne soyez pas des syndicats. Ce n'est pas le syndicat, parce que c'est le syndicalisme, ce n'est pas un truc. Si vous avez un problème, prenez les démarches normales qu'il faut. Si vous avez un problème dans votre environnement, dans votre quartier, prenez les démarches nécessaires qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de crier, de faire du bruit, d'insulter, de faire tout ça là. Non, ce n'est pas de créer des bêtises. Vous voyez. Donc, du coup, c'est très simple. C'est très simple d'abord de pouvoir lire le code du numérique et comprendre. Moi, tout ce que je fais, même que ça soit sur le blog de RFI, je tiens toujours compte de la loi pour de cette loi qui est établie dans mon pays, parce que je suis mon blogueur de RFI au Bénin. Et si les attentats du Bénin, je publie sur le blog de mon blog. Après tout, ça porte mon nom, ça porte mon identité, ça porte ma vie. Moi, je veux aller très loin, je veux pas aller me gâcher ma vie derrière les prisons, derrière les barreaux. Donc, du coup, lisez le code du numérique et créer votre truc. Il faut avoir un branding. Votre branding, franchement, c'est aussi une chose qui retrace votre crédibilité. Et voilà un peu tout ce que je peux dire par rapport à cette question.
Merci. Alors, une dernière question de Bonaventure. Pouvez-vous partager avec nous, voilà, les 15 lois sur le numérique et sur l'environnement? Bon, je pense qu'on va faire un plaidoyer pour que sur le forum, donc, vous allez vous connecter et puis créer un compte sur EcoBlog. Nous allons partager certainement sur le forum la loi 4 sur l'environnement République du Bénin et le code du numérique. Mais vous pouvez également les télécharger. C'est des documents qui sont disponibles gratuitement sur Google, en tout cas sur le serveur que vous utilisez. C'est des documents qui sont disponibles. Mais on va également les mettre certainement sur le forum de EcoBlog. Et quand vous vous connectez, quand vous avez un compte sur EcoBlog, vous pouvez rapidement y avoir accès. Alors, il y a 5 questions de Ahmed que je remercie. Donc, je veux voir les questions qui n'ont pas encore eu de réponse. Qui peut être un éco-blogueur? Je pense qu'on l'a dit dans au cours des discussions avec les panélistes. Tout le monde peut être éco-blogueur. Il suffit. Si vous êtes éco-blogueur, l'essentiel, c'est que vous ayez des informations, que vous relevez des problèmes, que vous parlez de l'environnement. Donc, si par exemple, vous voulez être éco-blogueur sur EcoBlog, quand vous écrivez des articles, si même ces articles-là ne sont pas diffusables en l'état, nous aurons la responsabilité de les corriger, de vous aider à les corriger. Et dans ce sens, EcoBlog organise des formations pour pouvoir aider les jeunes qui veulent devenir éco-blogueurs à l'être. Donc, restez connectés à nos réseaux sociaux et au site de EcoBlog. Comment le devenir? J'ai répondu. Alors, comment nos devanciers permettent-ils aux jeunes générations d'intégrer le domaine? Quand vous parlez de devanciers, j'estime que c'est des personnes qui sont déjà éco-blogueurs comme Emmanuel, Anne-Marie et autres. Anne-Marie, est-ce qu'il y a un processus particulier pour permettre aux jeunes ou bien à des personnes qui veulent faire leur premier pas de devenir éco-blogueur ou bien qui veut peut devenir éco-blogueur tout d'un coup?
Est-ce que la question c'est vraiment devenir éco-blogueur? Ils disent que dans le domaine de l'écologie, donc, c'est-à-dire pour mener des actions dans le domaine environnemental. Voilà, tout ceci, donc c'est tout ce que ça englobe, je crois. Hein. Ou bien je me trompe, okay. Je sais pas.
Ou bien vous donnez la parole à la personne et il repose la question.
Ahmed, vous êtes là? Je vais voir s'il est encore là. Ahmed, oui, Ahmed, vous êtes avec nous? Oui, ou vous voulez bien prendre la parole pour cette question-là, s'il vous plaît?
Ok, d'accord. Je demandais tantôt comment nos devanciers permettent-ils aux jeunes générations d'intégrer le domaine, genre le domaine des éco-blogueurs, quoi. Parce que, par exemple, le grand frère Emmanuel et Tamou Sharaf et Anne-Marie, ils sont déjà dans le domaine. Est-ce que nous, en tant que jeune génération, est-ce qu'il y a un processus qui nous permet-il de pouvoir intégrer le domaine. Voilà ce que je voulais demander.
Super, donc c'était bien la question. Anne-Marie, tu veux bien répondre?
Oui, oui. Je pense que M. Ahmed Chimène l'avait déjà dit, pour devenir éco-blogueur, c'est rien de difficile. Vous allez sur le site MyEcoBlog et vous créez votre compte. Maintenant, comme on avait dit, le mot d'ordre de EcoBlog, c'est alerter, dénoncer et proposer. Donc, quand vous devenez éco-blogueur, vous voulez alerter la population, les décideurs sur telle chose, comme l'exemple que mon collègue Emmanuel avait donné plusieurs fois, il y avait telle situation dans telle localité, ou bien comme l'exemple que le collège Tamou Sharaf avait donné, il y a par exemple dans cette zone une situation, peut-être le forage est gâté, ou carrément la population ne respecte pas les règles d'hygiène, où il y a une voie qui est dégradée et qui cause de problèmes. Bref, tout ce qu'il y a comme remarque que vous faites dans le sens de l'environnement, dans le sens de la protection de l'environnement, en tant que citoyen, en tant que jeune, vous pouvez vous lever et alerter la population sur ça, ou carrément alerter les décideurs sur ça. Et de la même manière, si dans votre localité, par exemple, il y a des solutions innovantes, peut-être pour produire de l'eau potable ou pour pallier à l'insécurité alimentaire, par exemple. Vous pouvez partager cette information avec les autres. Vous pouvez proposer cette solution-là avec plus de personnes en écrivant ça sur EcoBlog. Et je pense que Chimène vient de dire que très bientôt, il y aura une formation pour les gens qui veulent devenir éco-blogueurs. Et je pense que cette formation va permettre à tous ceux qui veulent devenir éco-blogueurs d'avoir les bases déjà, d'avoir les bases pour savoir quoi écrire ou bien quel contenu produit. Et donc, je ne sais pas s'ils vont créer un groupe à la fin pour que tous ceux qui sont intéressés soient dedans, ou je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que ce serait bien s'il y avait peut-être un groupe, et lorsqu'il y aura l'information, on envoie ça dans le groupe pour que toutes les personnes qui sont intéressées soient au courant. C'est un peu mon avis. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Je pense que on va y aller. Oui, oui, Anne-Marie. Je me permets de dire que tu as répondu à la question. Sinon, Ahmed pourra nous le dire dans le chat. J'ai lu également une autre question. C'est quelles sont les politiques ou accessibilités mises en place par nos dirigeants pour réveiller la conscience des jeunes dans le domaine de l'écologie, donc les politiques nationales pour permettre aux jeunes de mieux comprendre ce que c'est que l'écologie. Il y en a, non, au Bénin? Sharaf, vous êtes avec nous?
Oui, bon, moi je peux dire que tout simplement, je peux dire ce que je comprends, ce que j'ai compris, ce que j'ai constaté, à mon avis, terre à terre, comme j'aime les trucs terre à terre. Au Bénin, on peut dire que plusieurs initiatives qui visent à sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques et à les impliquer activement, c'est-à-dire dans la protection de l'environnement. Il y a plusieurs initiatives politiques mises en place. Par exemple, il y a des éducations environnementales dans les écoles, c'est-à-dire le Bénin intègre maintenant petit à petit, c'est-à-dire des programmes de sensibilisation à l'environnement, c'est-à-dire dans les curriculums scolaires. On peut avoir, par exemple, le ministère de l'enseignement maternel et primaire inclus dans les modules sur l'environnement et le développement durable dans les cours pour les jeunes élèves. C'est-à-dire, c'est une approche qui vise à inculquer les plus jeunes âges à une conscience écologique. Par exemple, aussi encore, il y a la SGDS avec le gouvernement qui est en partenariat et qui sensibilise, qui vraiment active la conscience des jeunes générations dès maintenant dans les écoles à travers les sensibilisations. Il y a aussi des projets de reforestation. Il y a un projet même que le programme inclut plantons, c'est-à-dire plantons pour l'avenir. C'est-à-dire c'est une initiative qui a été mise en œuvre pour encourager les jeunes à participer à des activités de reforestation. C'est-à-dire, ça peut permettre aux jeunes de s'impliquer directement dans les restaurations des zones dégradées et la lutte contre le changement climatique. Il y a encore les concours et compétitions qui visent, qui sont organisés pour les jeunes. C'est-à-dire, il y a, par exemple, il y a Éco-Solutions qui permet aux étudiants et des innovateurs de proposer des solutions écologiques à des problèmes locaux. Même à l'université de Calavi, je crois, hein, il y a des projets incubateurs, c'est-à-dire des centres où des jeunes sont permis de se retrouver, de mettre des initiatives, d'innover dans plusieurs domaines que le PNUD Bénin aujourd'hui soutient. Donc, il y a aussi des partenariats internationaux, comme le Bénin participe à des initiatives internationales à sensibiliser, à engager les jeunes dans, par exemple, les bénéficiaires de programmes soutenus par des internationales, des organisations internationales comme le programme des Nations Unies pour l'environnement et aussi même, et comment dirais-je, une politique, même la participation des jeunes à la COP, c'est l'une des politiques pour amener des jeunes à s'impliquer directement dans ces trucs-là. Et il y a aussi des organisations non gouvernementales comme l'Association béninoise pour la promotion de l'environnement qui travaille directement avec les jeunes à travers des ateliers, des campagnes de sensibilisation et des projets communautaires. Donc, en fait, le problème, c'est-à-dire pour résumer tout, le problème d'abord, cher ami, c'est vous. Quand vous comprenez, c'est-à-dire l'enjeu du problème et que vous avez l'amour de ce truc, allez-y et dans ces organisations. Et ces organisations sont autorisées par, comment dire, le gouvernement et ces organisations aussi sont dans la politique de ces gouvernements et qui fonctionnent et à but non lucratif et qui sont soutenus aussi par des politiques venant de nos gouvernements à travers des collaborations. Donc, si vous êtes engagé, il y aura toujours, vous serez appelé et vous serez sollicité. Et là, directement, on vous implique et vous vous impliquez vous-même. Donc, moi, c'est ce que je peux dire à ce sens-là.
Merci beaucoup à vous, Sharaf. Une dernière question. En tant que jeune éco-blogueur, est-ce aussi pour avoir les informations, il faut se rendre dans les milieux ruraux? Je pense que Sharaf l'avait dit, Emmanuel également. Oui, c'est bien d'aller dans les milieux ruraux parce que là-bas, il y a beaucoup de situations, de problèmes environnementaux. Mais vous allez faire forcément selon vos moyens. Et au lieu aussi de descendre dans les milieux ruraux, Sharafa avait donné cette possibilité-là aux éco-blogueurs de pouvoir contacter ou bien discuter avec les organisations qui travaillent déjà dans ces milieux-là afin d'avoir les informations. Faites selon vos moyens. L'essentiel, c'est que vous apportez quelque chose, c'est que vous puissiez alerter, informer sur un problème ou même donner des solutions pour résoudre un problème environnemental. Et donc, votre dernière question, je vais l'adresser à Emmanuel. Est-ce que l'éco-blogging nourrit son homme? Enfin, a-t-il ajouté?
Ça nourrit parfaitement. Hein. Ça nourrit, si ah on bon? S'en sait bien. Oui, ça nourrit. On n'a même pas besoin d'être éco-blogueur, même tout ce qu'on fait, c'est-à-dire des initiatives, des militants, des activistes, des engagés de différentes associations qui écrivent déjà, ça permet de nourrir et ils ne savent même pas qu'ils sont en train de comment on appelle ça, d'éco-bloguer parce que ils donnent des informations qui visent à sensibiliser, qui amènent des gens à prendre conscience, qui amènent les décideurs à changer quelque chose, à voter des lois. Déjà, ça, c'est-à-dire, ça peut te nourrir, hein, en fait. Quand on sait que, voilà, tu écris très bien et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour écrire un article qui peut vraiment amener des gens à réfléchir. Et comment dire, on t'appelle beaucoup. Et aussi, quand tu es engagé, bon, moi, je parle souvent de moi parce que moi, je me dis, seule l'action est crédible chez moi, hein. Donc, quand tu es engagé aussi, quand tu crées des contenus, on t'appelle pour des ateliers et pour des formations, on t'implique à de divers niveaux. Moi, en tout cas, quand même, tout ce que je fais, quand même, à un moment donné, ça m'a nourri et pour dire encore, le portable que je tiens, c'est le portable de PNUD Bénin que je garde. Donc, ça me nourrit, ça paie mon loyer, en fait. Et aussi, je suis pas l'homme du média, je suis pas, mais à travers mes activités sur les ODD et sur ce que je fais, je publie sur mes plateformes, sur mes réseaux. Donc, déjà, j'ai été sélectionné parmi quand même les 5 personnes qui vont participer à un sommet et international sur les ODD et un projet avec le PNUD Bénin, un projet soutenu par les organisations des Nations Unies, l'ONU, même. Donc, voilà, si c'est que on fait bien ce qu'on fait, tout qu'on fait déjà, ça peut nous donner quelque chose à manger. Le plus important, c'est d'avoir de prendre connaissance du truc, de s'informer et de le faire bien. Donc, moi, c'est ce que je peux dire.
Merci beaucoup, Sharaf. Emmanuel, je voudrais, je concluais la dernière intervention de Sharaf comme son mot de fin, parce qu'on a, le temps est passé. Emmanuel, tu veux bien nous dire un mot de fin, peut-être revenir sur le fait que, voilà, est-ce que vraiment l'éco-blogging nourrit au Bénin?
Pour m'aligner en même temps sur la réponse de Sharaf, éco-blog nourrit beaucoup, on peut pas en dire. Mais avant ça, il faut d'abord faire un travail acharné et un travail bien fait. Moi, j'ai été plusieurs fois sollicité pour écrire des articles sur des événements. Beaucoup, je peux pas me citer. Quand vous allez sur Ecoblog, vous allez voir la plupart des contenus que j'ai créés, des articles que j'ai écrits, c'est tous des événements. Et quelques-uns sont sur des sujets spécifiques, mais Ecoblog, ça nourrit. Parce que, par exemple, tout récemment, ils ont lancé le Congo Cotonou Ville Propre. J'étais tranquille quand on m'a contacté, voilà, pour faire partie des médias accrédités pour pouvoir annoncer la conférence de presse. Et j'étais tranquille, je suis venu à la maison, et je vois mon compte, moi, Money sonner, et dit, waouh, ça c'est intéressant. Donc, du coup, Ecoblog, attention, ça nourrit. Et par ça, c'est seulement sur Ecoblog, ce que je fais avec aussi mon autre blog, RFI aussi, ça c'est un autre niveau que je fais. Donc du coup, ça nourrit. Quand tu fais bien ton boulot, que tu sois à Tchoumé, les gens vont t'appeler. Et bien avant ça, il faut avoir un punch pour de rédaction, il faut suivre une formation, il faut bien s'outiller, il faut avoir une technique de rédaction qui est vraiment, vraiment, vraiment hot pour que les gens puissent t'appeler. Moi, beaucoup de fois, on m'appelle pour dire, Monsieur Emmanuel, vos contenus que je lis, c'est bon, je suis intéressé. Est-ce que vous pouvez nous laisser un truc là, voilà. Et puis voilà, je laisse le truc en ligne sur les blogs. Et puis voilà, après, on me tend des billets. Et je prends ça rapidement. Hein. Je prends ça avec joie pour pouvoir quand même me nourrir. Parce qu'après, le travail, c'est le réconfort. Donc, éco-blog, nourrit correctement les gars, ça nourrit. Il faut quand même... travailler. Et de façon générale, il n'y a pas de petit boulot. Fais-le bien correctement. Et voilà, c'est les gens qui vont venir te chercher. Moi, même tout de suite, même devant mon ordinateur, j'ai un délégué, un article pour un événement auquel j'ai participé hier rapidement, que je dois mettre en ligne. Peut-être mon compte, moi, va sonner. Et voilà. Donc, les gars, comme cela l'a dit, ça paye très bien. Et des opportunités, ces opportunités vont venir, on va vous appeler sur des grands forums, sur des grandes initiatives. Voilà. Et donc, vous êtes en train de créer votre parcours comme ça. Donc, moi, maintenant, ça fait déjà 8 ans que je suis écrit sur des blogs. Donc, c'est pas... que ça paye très bien, ça paye. Ça paye très bien. Hein. Ah, on peut même pas dire, les gars. L'essentiel, c'est de faire bon boulot.
Merci, Emmanuel. On a compris.
C'est très, très rassurant, Emmanuel. Merci de nous inciter vers le blogging éco-responsable qui paye très, très bien, pour reprendre tes mots. Anne-Marie, notre géante femme du panel, un mot à l'endroit de cette jeunesse-là, des participants. Est-ce que tu penses qu'ils doivent tous commencer par créer du contenu? Qu'est-ce que tu nous dis à l'occasion de la journée de Eco-Blog Day? Voilà.
Ok, bon, je pense que mes collègues Sharaf et Emmanuel ont vraiment ramassé l'essentiel. Ce que moi, je veux déjà dire, c'est ne faites pas du suivisme. Ne faites pas parce que l'autre fait, mais plutôt faites les choses parce que vous pensez que vous pouvez apporter un plus. Engagez-vous parce que vous avez...
Ah, non.
Il y a un micro ouvert.
Oui, c'est pour moi. C'est pour moi, excusez-moi. Allez-y seulement.
D'accord. Donc, je disais tantôt, ne faites pas de suivisme, ne vous engagez pas ou bien ne faites pas de l'éco-blog parce que tout le monde le fait. Mais faites-le avec des objectifs précis. Faites-le parce que vous avez envie de changer des choses, vous avez envie d'influencer les décideurs de votre communauté, de votre zone, de votre département, de votre pays, et ainsi de suite. Et surtout, je sais qu'il y a des jeunes femmes ici. Moi, souvent, j'aime encourager les jeunes femmes parce qu'on pense que, les femmes là, elles ont trop peur quand on dit de faire telle, elles ne font pas. Moi-même, je suis dans un processus d'amélioration. Donc, je m'améliore de jour en jour et je veux encourager les jeunes femmes qui sont ici à oser, à aussi devenir des éco-blogs. Je vois une éco-blogueuse et Madame Ruth qui est aussi très, très active, donc à aussi devenir des éco-blogueuses, à changer des choses, à apporter leurs solutions, leur point de vue, à rendre plus visible l'effort que la gente féminine est en train de faire pour améliorer les choses. Je pense que c'est tout ce que j'ai
à dire. Et moi, je ne sais pas si on peut placer un mot encore. C'est pas rien.
En combien de secondes, s'il vous plaît, oui. Parce que vous avez commencé.
Ça peut aller.
Oui. Allez-y.
Bon, moi, ce que je voulais suggérer, parce que il y a des éco-blogueurs et il y a aussi des éco-blogueurs certifiés qui ont la maîtrise de ce qui se fait dans l'éco-blogging. Moi, je suis pas éco-blogueur, mais quand même, je suis quand même créateur de contenu pour amener des gens à sensibiliser le public. Et j'aimerais que nos éco-blogueurs vraiment, qui sont vraiment formés pour ça, c'est-à-dire qu'ils créent aussi des plateformes où vraiment les jeunes, faire de plateformes où les jeunes peuvent découvrir des histoires inspirantes, des initiatives innovantes. C'est-à-dire, un éco-blog peut partager des témoignages des jeunes activistes, des projets de nettoyage ou des réussites en matière de durabilité. En voyant ces pairs s'engager, c'est-à-dire, nous, les jeunes, nous pouvons nous sentir motivés à agir par nous-mêmes et aussi faire en sorte que ces blogs offrent aussi des conseils pratiques pour l'empreinte écologique comme des tutoriels sur le compostage ou bien les zéro déchets. Donc, voilà, c'est-à-dire que les blogs soient animés, en fait. Allez-y à la rencontre des activistes, surtout ceux qui sont en milieu rural, il y a des leaders, il y a tout ceci, il y a des initiatives qui se font. C'est-à-dire, prenez-les en interview. C'est-à-dire, faites des dessins sur des terrains pour filmer tout ce que ces gens-là font. Renseignez-vous sur des initiatives des activistes, des militants. Au moins, là, ça peut amener beaucoup de jeunes, voilà, à collaborer, à se sentir valorisés et impacter aussi d'autres jeunes à faire plus davantage. Un peu, ça devient beaucoup et notre planète pourra être sauvée. Merci.
Merci, s'il te plaît, en 10 secondes. Je pense que tu as un peu lu dans mes pensées et comme tu l'as dit, c'est vraiment important de mettre la lumière sur nos jeunes frères, les gens qui font vraiment l'effort, surtout les communautés rurales qui ne sont pas à Cotonou et à Calavi seulement, pour qu'on les découvre, pour que peut-être qu'eux aussi profitent des opportunités à l'international qu'il y a pour eux. Donc, je pense que, comme tu as fait sortir le sujet, on va peut-être en discuter après. Et c'est bien. Chimène, j'ai terminé.
D'accord. Merci beaucoup. Je suis sincèrement très ravie, très contente de ces échanges que nous venons d'avoir. Mes chers participants, nos chers participants, merci d'être restés jusqu'à la fin, mais je ne sais pas si vous êtes tous avec nous. Si oui, tapotez vos écrans, s'il vous plaît, pour qu'on puisse remarquer que vous êtes là. On peut peut-être applaudir nos panélistes pour les expériences merveilleuses qu'ils ont partagées avec nous. Donc, avant de conclure, je voudrais vous inviter à aller, à cliquer sur le lien. On a envoyé un lien dans le groupe. C'est le lien grâce auquel vous accédez à EcoBlog en ligne. Donc, entrez dans votre navigateur, cliquez sur ce lien-là. Ça vous dirige directement vers le site. C'est spécifiquement pour que vous puissiez voir déjà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller sur le site, pour que vous voyez à quoi ressemble EcoBlog et surtout pour que vous puissiez jeter un coup d'œil à notre rapport d'activité de l'année 2023, parce que EcoBlog a commencé ses activités en 2023 et à la fin nous avons jugé utile de faire un résumé, un rapport de toutes les activités que nous avons eu à effectuer au cours de cette année-là. Donc quand vous allez, je ne sais pas, est-ce que vous me recevez toujours? Vous êtes là, vous avez cliqué? Vos réactions, s'il vous plaît, me permettront, pardon, de savoir que je ne parle pas en l'air. J'espère que vous êtes avec moi. Parfait. Donc, quand vous allez sur EcoBlog, vous allez voir, c'est une plateforme verte. Il y a, si vous êtes sur un ordinateur, vous allez voir directement à votre droite, en haut, qui sommes-nous, contributions, outils, forums, rapport 2023 et contacts. Si vous êtes sur votre téléphone, vous allez voir les trois traits horizontaux qui restent généralement en haut, qui disent paramètres. Vous cliquez, vous allez voir également ces onglets-là. Vous allez cliquer sur rapport 2023. On va jeter un coup d'œil ensemble en une, deux minutes avant de nous séparer.
Bon, nous sommes dedans, hein. Nous sommes dedans. On dit une connexion pour accéder à ce contenu. Voilà.
Oui, justement. Oui. Donc, j'avais oublié cette étape. Pour pouvoir accéder au rapport, il faut créer un compte. Et c'est très facile. Créer un compte sur, EcoBlog, c'est très facile. Vous allez juste voir l'onglet contribuer ou créer un compte. Vous retournez sur la page d'accueil.
Oui.
Ou là maintenant vous allez voir ancien membre et nouveau membre.
Oui, j'avais vu ça.
Voilà, appliquez sur nouveau membre. Remplissez, mettez prénom, nom d'utilisateur que vous voulez, votre mail et mettez un mot de passe et vous cliquez en même temps sur créer un compte.
Ok. On le fait en même temps
ensemble. Justement, quand vous créez un compte, c'est que désormais, quand vous vous connectez sur EcoBlog, vous vous connectez avec votre profil. C'est plus facile. Oui. Donc, vous avez accès à tout ce qu'il y a sur EcoBlog quand vous avez un compte. Donc, maintenant que vous avez un compte, vous pouvez aller cliquer sur le rapport et vous allez directement voir le rapport.
Oui.
Parfait. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil. Ça vous permettra de comprendre mieux ce qu'on fait de façon plus détaillée que la brève présentation que j'ai eu à faire au départ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Nous avons un forum sur ecoblog.bj. Donc, vous avez également le forum, c'est juste avant rapport 2023. Vous pouvez cliquer après là-dessus, après ce webinaire là, et fouiller un peu. Vous allez voir comment on contribue, comment on écrit un article, on envoie un podcast, une vidéo ou une image sur EcoBlog. Tout ça, c'est une plateforme qui est quand même très, très facile. D'accès. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous faire des retours. Alors, j'ai lu dans les chats et même en messagerie privée que vous faites la doléance pour que on ait un groupe WhatsApp après ce webinaire. EcoBlog l'a enregistré. Puisque nous avons déjà vos mails, vous aurez nos retours. Merci vraiment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez tous créé votre compte EcoBlog et que nous verrons d'ici les heures à venir, les jours à venir, vos contributions. N'hésitez surtout pas et n'attendez pas d'avoir également des outils très exquis, hein, un téléphone iPhone avant de faire une photo, peut-être une très bonne caméra avant. Faites ce qui est possible. L'essentiel, c'est qu'on puisse comprendre ce que vous dites, le message que vous voulez passer. Donc, merci à tous les participants.
Sur le site où aller pour publier quelque chose, bon, je suis rentré dedans, j'ai créé mon compte.
Super. Vous allez voir créer du contenu quelque part. et contribuer.
Bon, je suis allé au niveau du rapport, je suis au niveau du rapport là. Ok, contribution, oui, c'est ça?
Exactement, contribution.
Voilà, donc, ah ok, ils ont dit rédige ton éco-billet, ou bien comment c'est quoi?
Exactement, rédige ton éco-billet, c'est un article.
Ok, et les images, si c'est partager des images, on partage uniquement que d'images.
Exactement, donc vous cliquez sur le contenu que vous voulez partager avec nous. Vous avez tout compris.
Ok. Maintenant, priez de nous envoyer les liens personnellement, quoi. C'est-à-dire, si vous pouvez, moi, je veux le lien. Donc, et aujourd'hui, nous, on a fait une activité avec mon ONG sur une activité de citoyenneté. Donc, en même temps, on peut essayer de écrire quelque chose et vous envoyer en même temps comme vous l'avez demandé.
Surtout que vous avez déjà un compte, n'hésitez pas à envoyer juste vos articles. Les corrections ne tardent pas. Vous allez voir vos articles sur le site. Il n'y a pas de problème. Merci, okay. Merci beaucoup à vous. Je vous invite à passer une très bonne journée internationale du blog. N'hésitez pas à sensibiliser également vos pairs à être des ambassadeurs de l'éco-responsabilité dans vos communautés, à agir pour un changement positif. Merci et passez une très bonne journée. C'est la fin de notre webinaire.
Merci, merci. Et pareil à vous aussi. Et surtout, comme on l'a fait avec Man et Marie Golo, il faut vous déplacer aussi, hein. Il faut aller sur le terrain. Ne restez pas sur derrière les écrans pour dire éco blog. Sinon, nous, on ne veut plus participer à vos réunions. Parce que au nord ici, vous nous oubliez. Non, c'est au sud là-bas toujours. Il faut descendre sur le terrain. On veut vous voir sur le terrain. Et on soit encore éco blog. Parce que c'est ça, moi.
J'informe que nous avons terminé. Charles, c'est bien reçu. J'informe que nous avons terminé. Nous avons fait 15 minutes de plus. Donc, c'est bon. Vous dites?
Non, je dis, c'est bon. Il faut descendre quand même sur le terrain. Je veux qu'on garde au moins vraiment cette recommandation parce que c'est très important et pour amener la meilleure sensibilisation, c'est de se mettre en action et vous aurez plus de co-blogueurs. Et on aura plus d'impact. Donc, voilà, c'est ça.
Merci beaucoup. Non, monsieur Zorobabel, vous pouvez créer votre compte sur Ecoblog. Vous n'avez pas besoin forcément d'être au Bénin. Allez-y seulement. Merci et bye bye.